France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Ce matin, nous avons eu la visite de Thomas Pesquet dans nos studios. Incroyable de voir cet homme ayant traversé le ciel, vécu dans l'espace, affronté le vide intersidéral. Il est parti sous Obama et Hollande, il est revenu sous Macron et Trump. Alors, il n'a rencontré aucun extraterrestre dans l'espace. Mais quand il a appris la nomination de Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu au gouvernement, il a dû se dire que les extraterrestres avaient peut-être envahi la Terre. Donc ça lui a dû lui faire un petit changement. Et eux, ils sont bien sur Terre et bien dans l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Soazic Kemener de l'hebdomadaire Marianne. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Également l'essayiste et chroniqueuse Natacha Polony. Bonsoir.
Bonsoir.
Frédéric Farah, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales. Et Virginie Petit, bonsoir, de Courrier International.
Bonsoir.
Et ce soir, nous parlerons de politique à l'Assemblée nationale, de modem bas débit, de lois qui rendent colère. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Il y a un an et un jour, nous avions eu cette conversation avec un des rédacteurs en chef de France Info. Les Britanniques votent pour sortir ou non de l'Europe. S'ils votent oui, il faudra peut-être qu'on fasse une émission spéciale. Non. Bon, il était reparti avec un rire moqueur. À peu près le même rire quand on a évoqué l'hypothèse Trump président. Voilà, je sais pas si vous voyez. Il y a donc pile un an, le Royaume-Uni rendait hommage aux 40 ans du punk en optant pour le Brexit. Depuis, il a été officiellement enclenché et revient comme un sujet récurrent de tout, dans tout sommet européen et provoque surtout un grand moment de solitude pour Theresa May à chaque sommet européen. Fantasme de nombreux populistes, le Brexit n'a pas essaimé dans le reste de l'Europe et reste flou pour de nombreux Britanniques. Mais au Conseil européen à Bruxelles aujourd'hui, ce serait plutôt Brexit. Et alors Emmanuel Macron ?
Parce que je pense que quand l'Allemagne et la France parlent de la même voix, l'Europe peut avancer. Et ça n'est parfois pas la condition suffisante, mais c'est en tout cas la condition nécessaire.
Voilà Emmanuel Macron, donc qui a très peu évoqué donc lui-même le Brexit. Juste Virginie Petit, au départ de Courrier International, c'est vrai que selon un sondage récent, les Britanniques revoteraient aujourd'hui le Brexit, mais on sent qu'ils sont quand même pas pressés de quitter l'Europe.
Ils sont pas pressés et puis Theresa May a raté son coup de poker électoral et donc les conditions, elle était partie sur un hard Brexit, c'est-à-dire des négociations dures, etc. Et là, les conditions sont plus du tout réunies pour qu'elle puisse mener à bien ces négociations et donc ils y partent pas en position de force dans ces négociations. Donc quitter l'Europe, oui, mais la quitter dans quelles circonstances, avec quels avantages, etc. Ils sont pas réjouissants.
Non. Natacha Polony, comment vous regardez justement un an après, aujourd'hui, il y a eu ce déclenchement du Brexit. On parlait à l'époque peut-être même de printemps populiste en Europe, et puis finalement, le reste des partis populistes européens n'ont pas concrétisé à des élections.
Disons que je pense qu'il faut essayer de ne pas effacer le sens de ce vote. Or, c'est ce qui a été fait, évidemment, comme tous les votes qui vont à l'encontre de ce qu'attendaient absolument toutes les puissances, tous les tenants du système tel qu'il existe. Et là, en l'occurrence, on parle d'un système néolibéral qui est appuyé sur le libre-échange et dont l'Union européenne, telle qu'elle existe aujourd'hui, est la figure de proue. Mmh. Alors, vous le disiez, les Britanniques revoterait le Brexit, c'est-à-dire qu'ils assument. Theresa May a perdu son pari électoral, mais elle ne l'a pas perdu parce que les Britanniques regrettaient d'avoir voté le Brexit. Mmh. Elle l'a perdu pour des raisons parfaitement internes, d'abord parce qu'elle a fait une déplorable campagne, et ensuite parce qu'il y a des débats sur la politique sociale en Angleterre, mais il faut réinscrire le Brexit dans un temps long. Le Brexit, c'est la queue de comète de la politique de Tony Blair, c'est la queue de comète de tout ce système qui a libéralisé totalement le marché du travail, qui a créé des travailleurs pauvres et qui a laissé les flux de capitaux et d'hommes se déplacer en Europe pour appauvrir certains endroits et faire baisser le salaire. Mmh. Voilà, et ça reste vrai, qu'on le veuille ou non.
Frédéric Farah, pour vous aujourd'hui, le Brexit, on a l'impression que ça met du temps. Bon, c'est normal à se mettre en place, mais surtout, on a l'impression que les Britanniques sont totalement dans le flou. À votre avis, pourquoi justement ça, c'est si compliqué? Si, en effet, le revoterait aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop quand même où aller.
Tout simplement parce que l'Union européenne prévoit des modalités, comme on dit, de hard exit, c'est-à-dire que c'est l'article 50, c'est soit on reste, soit on sort. Et comme on n'a jamais expérimenté la chose, c'est la première fois, donc c'est assez difficile, alors que l'Angleterre est là depuis plus d'une quarantaine d'années, c'est très difficile de dire clairement où on embarque les citoyens britanniques dans cette histoire. Et donc les Anglais sont dans l'incertitude, les négociations vont durer plus de 2 ans, donc et comme on l'a dit, avec une Theresa May affaiblie. Mais je pense, et je suis tout à fait d'accord avec Natasha Polony, il ne faut pas oublier le sens de ce vote et se dire, parce que Theresa May est affaiblie et parce que M. Macron était élu, qu'il faut revenir à business as usual, c'est-à-dire on revient comme
avant. Mais je crois qu'il y a conscience de ça. Hein. Enfin, quand ils en parlent, il y a une conscience quand même qu'il y a eu le Brexit.
Oui, mais on essaye à tout prix de l'effacer, de l'atténuer. Et puis, il y a cette manière très grossière européenne d'accueillir Madame May, où on la laisse un peu, on l'isole, comme on l'avait fait de Monsieur Papandréou à une époque, comme on a fait de Monsieur Varoufakis à l'Eurogroupe. Il y a une manière chez les Européens d'entendre un problème, mais en même temps de se montrer très désagréable dans l'accueil.
Alors, justement, oui, mais en même temps, les Britanniques ont voulu quitter, non? C'est normal, oui, qu'on soit vexé, non, quand quelqu'un quitte la fête trop tôt, non?
Oui, mais on peut agir pas comme un enfant, pas content.
Ouais. Oui, c'est pas une question de vexation, ouais, c'est une question de rapport politique, et peut-être que l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne devraient s'interroger sur les raisons qui ont poussé un peuple comme le peuple britannique à essayer de réaffirmer sa souveraineté. Ce serait peut-être intéressant pour les autres pays.
Soisy Kimener, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que Emmanuel Macron, alors lui, a été élu clairement, il a dit pendant la campagne qu'il était pro-européen, donc finalement contre ce Brexit, ça redonne du souffle justement aux pro-européens, l'élection d'Emmanuel Macron et ce qu'il dit en ce moment.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il veut se servir de sa présence et de la façon dont il a réussi à se rapprocher. Pour l'instant, on est vraiment aux prémices, hein, d'Angela Merkel. Il veut s'en servir comme une forme de bras de fer en disant, regardez, Theresa May, ou comme elle est faible, hein, il y a un espèce de jeu comme ça qui est en train de se jouer devant les caméras. Mais quand on regarde le Brexit, dont il a été voté il y a un an, mais c'est le président de l'Institut Jacques Delors qui l'expliquait de façon très nette, bon connaisseur justement de ses rouages, hein, et il expliquait que c'est le Brexit, c'est comme un divorce, c'est-à-dire qu'on commence à dire oui, on est d'accord pour le Brexit et ça prend énormément de temps. L'article 50 n'a été déclenché que le 29 mars, donc s'est déjà passé énormément de choses en un an, mais il peut encore se passer énormément de choses dans l'année qui vient. Donc on est vraiment là encore au tout début de cette histoire. Donc là, ça croise un tempo politique qui arrange Emmanuel Macron parce que Theresa May arrive affaiblie, mais c'est pas l'histoire pour tout le reste de cette sortie.
Alors Natasha Polony, juste avant de vous redonner la parole, vous savez, ici à France Info, voilà, on rythme hein, les choses comme ça, voilà, soyons droites, c'est comme ça. L'info à 20h10, c'est Julie Simule.
À Londres, les experts ont enfin trouvé la cause de l'énorme incendie de la Grenfell Tower la semaine dernière. Au moins 79 morts et des images qui ont fait le tour du monde. L'étincelle est en fait partie d'un réfrigérateur défaillant dans un appartement. Les enquêteurs confirment aussi dans leur rapport les soupçons de certains habitants. Les plaques d'isolation dans l'immeuble n'étaient pas conformes aux normes de sécurité. La police britannique envisage des poursuites pour homicide involontaire. Le couple franco-allemand plus soudé que jamais, les deux pays parleront maintenant d'une même voix sur l'Europe, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel à la sortie du Conseil européen cet après-midi. Une priorité, la crise migratoire, elle n'est pas passagère, c'est un défi à long terme pour le président français. Paris et Berlin s'engagent ensemble pour accélérer le traitement des demandes d'asile. Après cette annonce, Emmanuel Macron est rentré à Paris. Il a reçu en début de soirée Arnold Schwarzenegger à l'Élysée pour parler de la lutte contre le réchauffement climatique. L'ancien gouverneur de la Californie est en effet le président d'une ONG qui milite pour la défense du climat. Une semaine de sursis pour GMES, le sous-traitant automobile de la Creuse, toujours menacé de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers repousse sa décision, le temps peut-être de trouver enfin un repreneur pour sauver les 277 salariés. Et puis le géant des panneaux publicitaires, le groupe JC Deco, porte plainte. Des militants anti-avortement ont affiché aujourd'hui sans autorisation des messages contre l'IVG sur plusieurs abribus parisiens. Un acte de vandalisme dénoncé par le publicitaire et par la ville de Paris.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de l'Europe et des un an Brexit. Natasha Polony, vous vouliez rebondir sur ce que disait Soisy Kimener.
Oui, parce que vous demandiez si l'élection d'Emmanuel Macron avait redonné du souffle à l'Europe. Alors, ce matin, on entendait sur Europe 1 Thierry Breton qui disait « Mais vous voyez, 66% des Français ont voté pour l'Europe ». C'est quand même aller très très vite, d'abord parce que Europe et Union européenne, ça n'est pas la même chose. Et justement, si on étudie les votes dans cette élection présidentielle française et dans l'élection législative, on s'aperçoit que c'est quand même peut-être pas un plébiscite complet. Et donc, réutiliser cette élection pour dire, voyez, maintenant, il n'y a plus aucun problème en Europe. D'ailleurs, le Brexit, on s'assied dessus. Et en effet, on peut traiter Theresa May comme une paria. C'est assez problématique. Deuxième point.
Et en même temps, Natasha Polony, ce qui a fait tomber Marine Le Pen, c'est l'euro. Donc bien c'est sûr. L'Europe. Donc finalement,
mais les Français ne veulent pas sortir de l'euro et ils ne veulent pas sortir de l'Europe, de l'Union européenne. D'ailleurs, ils lient un peu les deux. Ils veulent que ça change. Et on leur vend depuis 30 ans la fameuse Europe sociale qui n'est jamais arrivée puisque dans les traités européens, il y a un modèle économique et social qui est néolibéral. Simplement juste une chose. En revanche, il y a un projet fédéraliste qui avance. Et l'élection d'Emmanuel Macron le relance. Pourquoi l'élection d'Emmanuel Macron? Parce que ça redonne la possibilité d'avancer vers du fédéralisme. Et le Brexit, parce qu'il y a des députés anglais qui vont abandonner leur poste. Et donc, ces postes-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il y a un projet chez les plus fédéralistes en Europe, qu'ils soient belges, italiens, qui est de prendre ces postes et non pas de les redistribuer, ça, ce serait compliqué, mais d'en faire un scrutin de liste purement européen, c'est-à-dire mêlant tous les pays. Et là, on va vers du fédéralisme. Ça, c'est en train de se mettre en place et l'élection d'Emmanuel Macron est censée aider à ça.
D'accord, donc le fédéralisme peut être une idée neuve, en tout cas, à voir. Une chose, Virginie Petit, aujourd'hui, il y avait une ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui était à Calais, pour parler justement de migrants et il s'est opposé à la création d'un nouveau centre d'accueil. Est-ce que justement, on avait dit que la solution à un moment, c'était une meilleure entente entre la France et la Grande-Bretagne sur Calais, pour un meilleur accueil aussi de la Grande-Bretagne. Est-ce qu'aujourd'hui, le Brexit, ça a changé la donne? Justement.
Ben, ça n'a pas encore changé la donne, puisque on n'arrête pas de dire c'est les 1 an du Brexit, ouais. C'est faux. C'est les 1 an du référendum. Le Brexit, nous n'y sommes pas encore. Et c'est tout reste à faire. Donc, peut-être que ça changera la donne. En attendant, les migrants vont s'entasser, hein, puisqu'ils continuent à affluer et à affluer à un rythme soutenu, depuis la Méditerranée en particulier. Et donc, là, pour le moment, non. On est toujours dans une espèce de blocage, on peut dire ça comme ça.
Depuis le début, oui, finalement. Oui. Est-ce que finalement.
Mais c'est quelque chose qui doit absolument être sur la table des négociations. Ça fait partie, je ne sais pas si on en a parlé déjà dans cette émission, mais des points soulevés par le sondage de Chatham House il y a quelques jours, qui était un sondage sur l'Europe et le sentiment européen. Et une des principales crispations en fait des gens en Europe, c'est ça, c'est l'immigration et les migrants. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose de... Alors qu'il y a quand même une grande majorité des gens qui ont le sentiment d'être européens, un des points de crispation, c'est l'immigration et les migrants. Donc il va falloir en discuter.
Une chose, Frédéric Farah, c'est assez étonnant parce qu'il y a eu tout et son contraire aujourd'hui. Gérard Collomb, qui a été assez dur avec même des associations qui venaient en aide aux migrants, qui est contre la création d'un centre de réfugiés. Et Emmanuel Macron, en même temps à Bruxelles, qui a déclaré « Nous devons accueillir des réfugiés, c'est notre devoir, notre honneur ». Ça paraît étonnant, non, d'avoir deux sons de cloche?
Non, c'est peut-être le début d'une série de couacs gouvernementaux. Hein. Peut-être il y a pas de surprise à avoir à ce niveau. Hein. C'est comme si la communication politique était toujours bien huilée.
Parce que jusqu'à présent, on l'a vu bien huilée concernant Emmanuel Macron.
Oui, oui. Après, il y a des erreurs de casting aussi. On a peut-être pu le voir également.
On va le voir. Mais
ça, c'est une autre histoire. mais si vous voulez, là, je crois qu'il y a une urgence, même si on abuse beaucoup de ce terme. Il y a une situation humanitaire très très grave. Les associations essayent d'y répondre. Après, on peut trouver à redire aux associations, mais il y a le défenseur des droits, l'a mis en lumière. Il y a une situation quand même extrêmement difficile pour ces personnes, que ce soit pour s'entretenir, se laver, se nourrir. Il y a une réponse. Mais en même temps, on est dans une situation qui est toujours la même, c'est-à-dire on crée un centre, ce centre, ça ne satisfait pas, puis ensuite, il se retrouve dans la nature. Donc, je crois que le gouvernement a peut-être du mal à avoir une ligne très claire. Monsieur Macron ne réussit moins la synthèse qu'avant.
Alors justement, on va parler de cette erreur de casting, hein, puisque vous le savez, dans le paysage audiovisuel français, il y a une émission très appréciée des téléspectateurs, vous la connaissez sûrement, c'est Rendez-vous en Terre Inconnue. Vous savez, c'est présenté par Frédéric Lopez. Eh bien, la prochaine émission partira sûrement à la rencontre du peuple du Modem. Et oui, hein, puisque le soir du second tour des législatives, en voyant que le Modem avait 45 députés, nombreux ont été ceux à se dire, mais ça existe encore, ça? Une résurrection éphémère, puisque le président du Modem, François Bayrou, a démissionné de sa charge des gardes des Sceaux suite à l'affaire des assistants parlementaires du Modem. Une démission qui ne met pas un point final à cette affaire, bien au contraire, puisque Radio France aujourd'hui s'est procuré le témoignage d'un de ses assistants assez accablant pour l'ex-ministre de la Justice. On l'écoute.
Ce que j'ai pu vivre, c'est que les parlementaires à plusieurs finançaient des temps partiels d'assistants parlementaires qui ne fournissaient aucun travail pour le député. Les temps partiels qui étaient financés par l'Europe servaient à servir les ambitions de François Bayrou.
Quand François Bayrou dit il n'y a jamais eu d'emploi fictif au Modem.
Il s'agissait d'emploi fictif ou de temps partiel fictif à l'encontre des financements européens, oui.
Donc François Bayrou ment ?
Oui.
Voilà, donc un témoignage recueilli par Élodie Guéguin. Donc ce témoignage est anonyme aujourd'hui, mais celui de Kemener, c'est à charge, on l'a entendu, contre François Bayrou. Là, ça se complique, non ?
Oui, bien sûr, ça se comprime, bien sûr. Et effectivement, on voit que lui espérait rester au gouvernement, il espérait s'accrocher. La démission de Madame Goulard a accéléré les choses, elle était obligée de partir. Mais de toute façon, il aurait été contraint d'une façon ou d'une autre. Les auditions ont commencé cette semaine. On voit bien le témoignage que j'ai entendu ce matin sur votre antenne est accablant. En même temps, c'est un témoignage. L'enquête est en cours. Attention, il n'est pas mis en examen. Il faut attendre que la justice avance. Mais c'est ce qui est très compliqué dans cette histoire, c'est que il commence d'ailleurs à reconnaître, même s'il le dit pas si clairement de ça. Écoutez ce qu'il a dit aujourd'hui dans une interview à Sud-Ouest.
Il dit,
on a recasé des salariés du MoDem. Alors, il dit pas, il y a eu des emplois fictifs. D'ailleurs, c'est pas des emplois fictifs au MoDem, c'est des emplois fictifs qui dépendent du Parlement européen. Donc, il est dans une situation très compliquée. Alors, ses amis commencent à expliquer, c'est la zone grise, finalement, c'était pas immoral. Enfin, on voit qu'il y a des tentatives. C'est très compliqué. Et puis, surtout, il faut se souvenir de ce que disait François Bayrou. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase qui est maintenant terrible, hein, qui va lui coller, qui n'est pas encore ressortie, mais quand on a commencé à parler de François Fillon, même si c'est pas la même histoire, même si Pénélope Fillon, la femme de François Fillon, selon les éléments de l'enquête, on va voir encore une fois ce que ça donne, François Fillon était mis en examen, ne travaillait pas du tout. Là, il est question de temps partiel, mais là, ce qu'il avait dit François Bayrou, il expliquait, oui, et après, ce qui est terrible, c'est qu'on nous dit que tout le monde fait ça.
Ouais.
Donc c'est terrible de réentendre cette phrase aujourd'hui.
Juste une chose, Virginie Petit, pour vous, quand on voit ça, c'est quoi? C'est de l'opprobre jeté finalement sur, comme le dit François Bayrou, il le dit lui-même, il parle, je le citerai tout à l'heure, une de ses nouvelles phrases. Il a dit aujourd'hui, nous sommes à l'ère du soupçon généralisé, etc.
Il était en train de porter une loi sur la moralisation de la vie politique. Enfin, c'est quand même assez paradoxal qu'il s'étonne après qu'on vienne lui chercher des poux dans la tête et le soupçonner. Donc, mais ça, je trouve ça, oui, c'est même assez drôle en fait. C'est assez sarcastique. Ben non, mais sérieusement, si on moralise la vie politique, on moralise toute la vie politique.
Y compris le garde des Sceaux.
En premier, le garde des Sceaux, ça me semble d'une logique imparable, mais bon, peut-être que c'est la mienne, hein, de logique.
Non, on va revenir sur l'affaire du MoDem. Dans un instant, l'info à 20h20, Julie Smul.
Un nouveau sursis pour GMES, l'équipementier automobile de La Souterraine dans la Creuse. Une semaine de répit et au bout, soit une offre de reprise, soit la liquidation judiciaire. Les 277 salariés attendent toujours une offre ferme d'un repreneur pour reprendre et pour sauver tous les emplois. Nous devons accueillir des réfugiés, c'est notre tradition et notre honneur. Déclaration d'Emmanuel Macron à la sortie de son tout premier Conseil européen aujourd'hui. Le président qui annonce aussi une accélération de la procédure pour traiter les demandes d'asile en coopération étroite avec l'Allemagne. C'est le principal opposant à Vladimir Poutine et pourtant, d'après la commission électorale russe, il ne pourra pas l'affronter au présidentiel en 2018. Alexei Navalny n'a actuellement pas le droit de se présenter car il a été condamné par la justice, 30 jours de prison pour avoir provoqué au début du mois des manifestations d'opposants à Moscou. Il y aura bien un procès Gallet, Mathieu Gallet, le PDG de Radio France. Il sera jugé en correctionnel au mois de novembre. Il est soupçonné de favoritisme dans l'attribution de contrats à l'époque où il dirigeait l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Plus de 400 000 euros de contrats passés entre 2010 et 2014. La toute première fusée Ariane 6 sera lancée dans 3 ans, le 16 juillet 2020 exactement. C'est le PDG d'Ariane Espace qui l'annonce ce soir sur France Info. Un lancement qui aura lieu depuis le centre spatial guyanais à Kourou. Avant ça, le dernier match de la finale de Pro A, c'est du basket entre Strasbourg et Chalon-sur-Saône. Ça commence dans 10 minutes à 20h30.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info, nous parlons des nouvelles révélations autour du MoDem, le parti de François Bayrou, puisque ce matin Radio France s'est procuré le témoignage d'un assistant parlementaire un ancien assistant parlementaire du MoDem qui confirmerait donc les soupçons autour des pratiques d'assistants parlementaires on va pas dire fictif, mais voilà, travaillant à la fois pour le Parlement européen et pour les campagnes du MoDem. Natacha Polony, il y a également François Bayrou qui a donné une interview à Sud-Ouest aujourd'hui. Et lui, quand on lui pose la question, à votre avis, pourquoi cette campagne finalement sort? Et lui, il répond, je cite, « Je pense que tout cela ne vient pas par hasard. Un certain nombre de forces, de puissances qui détestent l'idée d'une loi sur la moralisation de la vie publique agissent. »
Oui, bien sûr, il est Saint-Sébastien percé par les flèches et c'est absolument terrible. Surtout de la part de quelqu'un qui trouvait scandaleuse la défense de François Fillon pendant la campagne. Ça pose plusieurs problèmes, cette histoire. Premier problème, en effet, la question de la pureté en politique, l'exigence de pureté portée par François Bayrou dans toute sa vie politique, parce que quand on exige la pureté, on court toujours le risque de se faire épurer soi-même par un encore plus pur, hein, c'est Danton allant à l'échafaud et passant sous les fenêtres de Robespierre et lui disant « tu me suis, Robespierre, dans 3 mois ». C'était pas faux. Et donc, deuxième point, le problème est de savoir si réellement cette pratique est généralisée ou pas, cette pratique d'assistant parlementaire. Parce que souvenez-vous, pendant la campagne, il y avait certes Fillon, c'était pas la même question, mais on en a surtout beaucoup fait sur les assistants parlementaires du Front National. Ouais. Or, le problème est exactement le même. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les petits partis politiques utilisent les assistants parlementaires du Parlement européen parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer des permanents. C'est tout.
Alors, pour aller dans votre sens, Gina Chapoloni, on a eu l'interview de Charles de Courson, donc, qui est un ancien député, ou peut-être est-il encore député UDI, qui lui, justement, dit à un moment, il va falloir qu'on en parle, justement, de ces pratiques. Et lui, ne parle pas seulement des petits partis. Il parle aussi de, bah, finalement, une pratique peut-être du monde ancien, c'est ça qu'on peut dire, Frédéric, pour vous ? Est-ce que c'est des pratiques, voilà, de...
Je ne sais pas si c'est le monde ancien. En tout cas, le monde ancien, il y a la persistance du vieux sous le neuf. Hein. On le voit bien aujourd'hui avec, François Bayrou. Ces questions de moralisation de la vie politique, les premières lois ont été prises sur le financement des partis, on voit, dès la fin des années 80. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancien. Et je crois que cette nouvelle loi de moralisation, si elle aboutit, à mon avis, n'en réglera, à mon avis, pas grand-chose. Ce sera la énième loi qui va s'ajouter aux autres. Ce monde ancien, c'est ça la difficulté pour François Bayrou et même pour le gouvernement actuel. C'était de venir en disant on va se débarrasser de ce monde ancien, nous on est propre, et on a déplacé la question politique de la question de la morale. Et là, ils se sont tendus un piège tout seuls. Et le monde ancien, quand on voit les soutiens aussi de M. Macron, penser que c'est que le monde neuf, c'est vraiment mal regardé. Hein.
Oui, ben, non, mais je sais pas pourquoi. Vous avez bien parlé tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser. Justement, ce Zikeménaire aujourd'hui, est-ce qu'il est totalement hors-jeu, François Bayrou, c'est-à-dire politiquement, lui qui a 45 députés, ce qu'il n'a jamais eu, qui était ministre, qui voit aujourd'hui presque ses idées arriver au pouvoir. Alors, c'est pas lui.
Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit j'ai labouré, voilà. Et puis quelqu'un d'autre est venu.
Est-ce qu'il est totalement hors-jeu ? Est-ce qu'aujourd'hui, simplement, ce groupe-là de 45 parlementaires MoDem, il sert à quelque chose encore ou pas ?
Alors déjà, je serais surprise de savoir combien ils sont. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des chiffres, mais vous savez qu'on aura les chiffres définitifs mardi. Et ça discute, c'est-à-dire qu'il y en a certains du MoDem, on va voir qui par exemple va être choisi comme président ou présidente de groupe. Certains ne veulent pas que ce soit Marielle de Sarnez pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, puisqu'elle a été citée dans cette enquête. Donc ils préféraient que ce soit Marc Fesneau, lui, qui est secrétaire général du MoDem et qui était prévu depuis très longtemps. François Bayrou lui disait lui-même, ce sera lui. Donc donc c'est difficile pour les députés d'accepter ça. Donc on sent que certains sont tentés d'aller faire un petit tour chez La République En Marche. Bon, ils seront peut-être présidés par Richard ça, c'est une autre histoire. Donc, ça va bouger. Ensuite, il y a la question de savoir combien seront, vous savez, les constructifs. Ça, c'est un terme inventé par Jean-Pierre Raffarin. C'est les députés LR, on va essayer d'être synthétique.
Après, on fera la liste dans le prochain débat de tous les groupes, mais en effet.
C'est donc des députés LR, mais qui sont plutôt pro-Macron et qui veulent pas siéger avec les anciens LR qui sont, eux, présidés par Christian Jacob. Et eux, la question est de savoir si eux veulent être plus nombreux que le MoDem. Donc, pour marginaliser François Bayrou et pour dire qu'il n'y a plus du tout besoin de François Bayrou. Mais ce qui les a surpris, d'ailleurs, c'est qu'ils espéraient qu'il y ait une table rase du côté du MoDem et qu'il n'y ait pas du tout de ministre MoDem, même s'ils sont à des postes qui ne sont pas du tout équivalents à ceux qui étaient tenus dans le premier gouvernement. On rappelle, garde des Sceaux, ministre des Affaires Européennes et ministre des Armées. Donc, là, on est sur des postes qui sont beaucoup moindres. Donc, effectivement, François Bayrou invente l'histoire d'être encore très présent dans le quinquennat Macron. Macron le laisse dire, le laisse faire, mais on n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer.
Juste une petite chose, Natacha Polony, sur hier, cette idée qui est arrivée comme ça, comme par hasard, dans la tête de Thierry Soler, constructif, reprise tout de suite par Christophe Castaner, sur cette fin d'immunité parlementaire. Est-ce que ça sert à quelque chose, la fin d'immunité parlementaire, ou il y a un petit peu de démagogie parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on l'a demandé à l'Assemblée, elle l'a levée, cette immunité parlementaire ?
Oui, bien sûr. Enfin, on est dans la démagogie pure, parce que ce qui pose problème dans la moralisation, justement, de la vie politique, si tant est que le terme moralisation soit le bon, ce n'est pas ce que va donner cette loi. C'est pas de lever l'immunité parlementaire. Ce qui nous pose problème, c'est le fait que l'intérêt public, le bien public, est grignoté par des intérêts privés. Or, cette loi ne suffira pas à lutter contre ça. Évidemment qu'il y a des tentatives, mais il faudrait absolument aller au bout de l'interdiction, par exemple, des activités de conseil pour les élus. Il faudrait notamment faire en sorte que des députés ne reçoivent pas clé en main des amendements rédigés par des lobbies, ce qui arrive et ce qui continuera à arriver, surtout avec des députés qui ne sont pas forcément férus de travail parlementaire parce qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est tout ça qui est dangereux. Ce n'est pas simplement d'aller fouiller dans la vie privée des uns et des autres. Ouais. C'est vraiment la dimension politique qui est importante.
Allez, dans un instant, on va continuer à en parler, et notamment on va essayer de savoir qui sera l'opposant de l'année, notamment Emmanuel Macron. On parlera également de ces différentes lois qui fâchent, qui vont tout de suite arriver sur le bureau des députés. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Attention, attention. Corum est un placement immobilier, donc un placement à long terme qui n'est pas liquide immédiatement. Et évidemment, capital et revenus ne sont pas garantis. Toute la documentation est sur corum.fr. Voilà, c'est dit. Sinon, c'est quand même l'opportunité de placer votre argent dans l'immobilier à partir de 1060 euros, tout frais inclus, de toucher vos revenus tous les mois et d'investir dans toute la zone euro. Autre chose, la petite voix ?
Rien, tout a été dit.
Bon, j'aime mieux ça.
Corum, l'immobilier sans l'immobilité. Corum.fr.
Corum, visa SCPI délivré par l'AMF, géré par Corum Asset Management.
France Info Météo. Avec Gauthier, mobilier contemporain, made in France et garantie 10 ans. À découvrir dans nos magasins Gauthier et sur gauthier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un week-end estival, du beau temps demain. Il faudra quand même composer avec des nuages de la Vendée au sud-ouest le matin, des nuages toute la journée le long de la Manche et puis l'après-midi, des orages entre le Massif central, la vallée du Rhône, les Alpes. Des températures plus raisonnables mais toujours au-dessus des valeurs de saison, souvent 13 à 19 degrés le matin, 21 à 32 l'après-midi, 28 attendu à Paris. Il fera encore très chaud entre la vallée du Rhône et le Languedoc-Roussillon. 7 départements de Rhône-Alpes restent en vigilance orange canicule. Ce sera encore étouffant cette nuit sur ces régions, pas moins de 20 à 25 degrés. Il fera jusqu'à 33 à 36 l'après-midi. Dimanche, 21 à 29 degrés au nord avec des éclaircies. Dans le sud, plus de soleil, 26 à 31 degrés et jusqu'à 34 en Méditerranée.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Lauriane Delanoë. Bonsoir.
Bonsoir. Quand la France et l'Allemagne parlent d'une même voix, l'Europe peut avancer. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont affichés unis cet après-midi à la fin du Conseil européen à Bruxelles. Le président français et la chancelière allemande ne sont pas d'accord sur tout, mais ils ont des positions convergentes, notamment sur un durcissement de la directive sur les travailleurs détachés. Le groupe GMAS a une semaine de plus pour trouver un repreneur. Le tribunal de commerce de Poitiers rendra finalement sa décision vendredi prochain. D'ici là, le ministre de l'économie Bruno Le Maire va tenter de convaincre Peugeot et Renault de s'engager à long terme auprès du sous-traitant automobile. 277 emplois sont menacés dans la Creuse. Un ancien avocat en prison, la cour d'assises des Yvelines condamne Sidney Amiel, 67 ans, à 10 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Un touriste grièvement blessé, deux autres légèrement dans un accident à Paris ce matin. Un bus impérial s'est encastré dans un tunnel. Il ne suivait pas son itinéraire habituel car de nombreuses routes étaient fermées pour la journée de l'olympisme. Car Paris vibre aux couleurs olympiques aujourd'hui pour défendre sa candidature aux Jeux de 2024. Cécilia Arbona, la star aujourd'hui, c'est un plongeoir de 17 mètres en bord de Seine.
Il représente la France dans le plongeon de très haut vol.
Un plongeoir aux couleurs vives a attiré toute l'après-midi des curieux. Des athlètes professionnels en maillot de bain ont effectué des sauts périlleux dans la Seine sous le regard admiratif de collégiens.
Il y a un jeune homme qui attend et qui commence à sauter. Il fait
des choses impressionnantes.
On me dit que ça peut être dangereux, mais pour eux, c'est plutôt un honneur.
Il y a le deuxième qui arrive. Il fait des saltos. Il a fait un salto arrière.
C'est un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir si Paris décrochait les Jeux, vous pensez ?
Oui, je pense même que ça sera même encore plus fou.
En plus, ce sera une compétition, donc ils vont vraiment faire encore plus de choses, alors que là, c'est comme un peu pour le plaisir.
Là, c'est le tour des femmes. On dirait qu'elles vont faire un duo. Elles ont enlevé leur bonnet, elles les ont jetées à la scène.
Elles sont synchronisées.
Voilà. C'est vraiment pas tout le temps qu'on peut voir deux personnes sauter en même temps. On a de la chance d'être en finale.
Cette petite fille n'a pas tort. Paris est en finale face à Los Angeles. Alors si aucune médaille ne sera décernée d'ici demain soir, d'ici la fin de cette campagne promotionnelle, Paris devait prouver deux choses. L'adhésion du grand public à son projet et sa capacité à surprendre en envoyant au monde des images inédites comme celle de ce 100 mètres disputé sur une piste d'athlétisme flottante ou de ces saltos dans le fleuve le plus célèbre de la capitale. Sur les bords de Seine, Cécilia Arbona, France Info.
Et ces festivités se prolongent demain à Paris. 20h33 sur France Info, Jean-Mathieu Pernin.
20h21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, et eux, à peine le temps de finir une partie de Sonic sur leur portable qu'ils se sont remis à leur place. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Soisy Kemener de Marianne, l'essayiste et chroniqueuse Natacha Polony, également Frédéric Farah, professeur de sciences économiques et sociales, et Virginie Petit de Courrier International. Alors, la semaine prochaine, on rentrera dans le dur pour les nouveaux députés, puisque mardi, ce sera donc la composition des groupes à l'Assemblée nationale et mercredi, les premières questions au gouvernement. Alors aujourd'hui, il y a eu un fait politique majeur, hein, puisque les trois députés nationalistes corses, élus dimanche dernier, ont rencontré Jean Lassalle. Alors c'est sûr, il y aura un avant et un après cette rencontre hein, qui pourrait peut-être faire trembler la République sur ses fondations. Pourquoi cette rencontre? Eh bien tout simplement pour essayer de constituer un groupe. Constituer un groupe, c'est une occupation très à la mode en ce moment, puisqu'il y en a déjà 7, mais Manuel Valls lui tente de composer le sien, Marine Le Pen également, et donc maintenant, les nationalistes corses, si beaucoup veulent être une force d'appoint au gouvernement, se bousculent aussi pour être l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron, et ça pourrait faire d'ailleurs une très bonne réalité. Quel sera cet opposant principal? Eh bien, à vous de faire votre choix, Marine Le Pen, François Baroin ou Jean-Luc Mélenchon.
Nous sommes la seule force de résistance à la dilution de la France, de son modèle social et de son identité.
Ce soir, je veux saluer et féliciter ceux qui sont élus. Grâce à leur succès, ils porteront la responsabilité essentielle d'incarner la première force d'opposition sur les bancs de l'Assemblée nationale.
Le peuple français n'a donné aucune chance aux survivants de l'ancien monde et il nous a désignés pour dorénavant porter devant le fanal du combat.
Voilà, alors qui sera l'opposant numéro un? Mais juste avant, Frédéric Farah, comment vous voyez cet éparpillement? 7 groupes, c'est beaucoup, c'est même la première fois hein, qu'une législature commence avec autant de groupes différents, cet éparpillement.
Ben, je crois qu'on sort du cadre habituel, où il y a effectivement le PS et puis la droite sous ces différentes appellations. Donc je crois que beaucoup de personnes ont du mal à savoir exactement comment se situer par rapport à ce gouvernement, qui est un gouvernement et des députés un peu attrape-tout, donc qui récupère un peu tout le monde. Donc c'est vrai que tracer une ligne d'opposition, c'est difficile. Donc je crois que c'est plus une affaire de personnes que d'idéologie réellement, à part, bon, là, on a des distinctions entre différents partis. Mais je crois que c'est pour essayer d'exister, puisque c'est la possibilité aujourd'hui de pouvoir un petit peu faire entendre sa voix dans cette assemblée, sachant qu'en plus, on voit bien qu'au sein de la droite, on se scinde, il y a une partie qui va suivre Monsieur Macron, une partie qui est dans l'opposition. C'est une vraie question finalement, qui va assumer cette opposition là face à Monsieur Macron, surtout que les Républicains, je crois que sur la loi travail, ils vont peut-être embarquer assez agréablement, une partie du PS aussi, du moins ce qui reste enfin du PS, si ça existe encore.
29.
Voilà, 29, oui c'est vrai.
Non mais c'est pas ça, il y a 29 députés
non,
PS.
Non, mais
ils veulent faire deux groupes.
Enfin, voilà, il y a des balles aussi. Donc si vous voulez, je crois que c'est une manière d'exister en politique, plus que de porter des idées. Et je crois que cette assemblée un peu étrange, curieuse, donne cette possibilité, mais je suis pas sûr que derrière, c'est autant de groupes avec des idées constituées, des projets alternatifs. Je crois que c'est plus une affaire de personnes que de pensées.
Justement, Natacha Polony, vous pensez ça aussi, cet éparpillement quand même, 7 groupes, on a calculé, voilà, on n'avait pas vu ça depuis 1958, est-ce que c'est à l'image aujourd'hui, vous pensez, d'un pays, est-ce que c'est bien représentatif d'ailleurs?
Il y a deux éléments différents. Il y a d'abord la question, par exemple, des députés républicains, où là, on a un exemple type du génie marketing, les constructifs. C'est génial de s'être appelé les constructifs. Les types se sont fait élire sur une étiquette les Républicains en disant qu'ensuite ils vont voter absolument tout comme la République en marche et que donc il n'y a strictement aucune différence, mais ils sont maintenant constructifs, c'est-à-dire positifs. Donc les autres, c'est l'ancien monde, ceux qui sont dans l'opposition stérile, etc. C'est quand même fabuleux comme choix, comme escroquerie intellectuelle. Mais simplement, ça nous montre qu'il y a une ambiguïté profonde, parce que c'était l'idéologie, vous savez, c'était l'idée d'Alain Juppé. Il faut prendre l'omelette politique, on coupe les deux bouts, c'est-à-dire les extrêmes, et on met le milieu ensemble, c'est-à-dire les gens raisonnables. Sauf que les gens raisonnables, c'est-à-dire en fait ceux qui communient dans une forme de libéralisme économique, il y en a beaucoup parce que le scrutin majoritaire les favorise. Mmh. Autour, et ça c'est le deuxième point, il y a en effet un éclatement absolu des représentations d'une opposition qui tout de même, au premier tour de l'élection présidentielle, représentait la moitié du pays. La moitié du pays va être représentée de façon éparse par la France insoumise, les communistes, le Front national, les nationalistes corses. Mmh. Et ces gens-là, évidemment, ne pourront pas peser. Ça pose un réel problème démocratique.
Soli Kemener, aujourd'hui, est-ce que finalement c'est... Est-ce que de voir autant de groupes comme ça aussi, ça veut dire que le Parlement compte un peu moins finalement aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça aussi ? On a souvent dit ça alors, à cause du quinquennat. Aujourd'hui, on aura une chambre qui enregistre davantage, qu'elle ne discute. Est-ce que là, ça se concrétise encore ?
Oui, et ce qu'on entend aussi beaucoup, alors pas dans les rangs de La République En Marche, mais c'est que le choix des ordonnances est aussi une façon de dire, bon, de toute façon, on va laisser, même s'il y a une loi d'habilitation dont on a découvert les contours cette semaine, pour la réforme du Code du Travail, comme c'est par ordonnance, de toute façon, on part du principe qu'on a des députés un peu néophytes et que voilà, ça va passer. Après, je pense que sur la réforme du Code du Travail, on va entendre deux voix qui vont tonner. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir le petit jeu qu'il y a eu. Vous avez repassé les extraits avec raison des discours qu'on a pu entendre dimanche soir. On a entendu aussi Marine Le Pen s'exprimer sur la réforme du Code du Travail. On sait qu'elle a auprès d'elle des députés qui ont été élus dans le nord de la France, donc avec une sociologie. Majoritairement des députés élus dans le nord de la France avec une sociologie d'électorat toute particulière, donc elle va tonner aussi sur ces questions-là. Donc je pense qu'on va avoir une opposition présente, mais une opposition mouvante. Effectivement, vous avez raison, les Républicains, sur la réforme du Code du Travail, ils en ont rêvé, donc ils vont rien dire. Ça, c'est évident que pendant, mais je pense qu'il va y avoir une espèce de relais. Vous voyez, sur la moralisation, par exemple, il n'y aura pas les Républicains, ça c'est sûr.
Non, il y aura les constructifs, parce que c'est eux qu'on fait sur l'immunité parlementaire.
Voilà, il y aura les constructifs. Donc on va avoir une opposition tournante, je pense. Je ne sais pas si elle sera efficace, mais elle sera tournante.
Virginie Petit, vous pensez, aujourd'hui, on a souvent parlé avant les législatives du second tour, qu'il n'y aurait pas d'opposition. Là, pour vous, est-ce qu'il y a une véritable opposition à l'Assemblée nationale, avec tous ces groupes justement?
Mais justement, c'est ça, il n'y a pas une opposition constituée et prédéterminée, et on va être sans doute plus dans une politique de réaction et peut-être des accords plus tactiques et suivant les lois qui seront proposées. Donc voilà, après nous on a regardé ce que disait la presse étrangère, ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle redécouvre la constitution de la Ve République et elle est à nouveau surprise par les pouvoirs accumulés au sein de la République française par le président de la République et pas par Emmanuel Macron. Enfin, eux, on parle d'Emmanuel Macron, mais c'est la République française qui donne autant de poids au président de la République. Et avec cette assemblée, effectivement, ça devient encore plus flagrant. Et ils sont parfois, le New York Times est assez effrayé justement par ce qui se prépare sur les ordonnances, en disant il n'y a plus que le Conseil constitutionnel qui est la véritable, non pas opposition, mais qui va pouvoir amender ou voilà. Et donc parfois ils sont assez effrayés par
c'est constitutionnel opposition alors.
Voilà. C'est non, ça comme ça qu'il faut se dire. Non, mais je pas l'opposition, mais au moins le qui peut amender les choses.
Allez, on continue dans un instant l'info à 20h40, Julie Smul.
C'est donc un réfrigérateur défaillant qui a provoqué l'énorme incendie de la tour Grenfell à Londres la semaine dernière. Les enquêteurs viennent de rendre leur rapport. Ils confirment aussi que les plaques d'isolation à l'intérieur de l'immeuble n'étaient pas conformes aux normes de sécurité. Au moins 79 personnes sont mortes cette nuit-là. La police britannique envisage des poursuites pour homicide involontaire. Sur l'Europe, il y aura maintenant une seule voix franco-allemande. Déclaration d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel à la sortie du Conseil européen. Les deux chefs Les États promettent aussi d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Nous devons accueillir des réfugiés, martèle Emmanuel Macron. C'est notre tradition et notre honneur. Fin de citation. La journaliste blessée dans l'explosion d'une mine à Mossoul en début de semaine est de retour en France. Véronique Robert a été rapatriée et transférée à l'hôpital militaire de Clamart, près de Paris. C'est cette explosion qui a tué notre confrère Stéphane Villeneuve et son fixeur Bakhtiyar Haddad sur place. L'ancien avocat Sidney Amiel, condamné ce soir à 10 ans de prison pour viol. Ex-ténor du barreau de Chartres, âgé aujourd'hui de 67 ans, il était jugé depuis le début du mois par la cour d'assises des Yvelines. Sidney Amiel est donc reconnu coupable de viol sur 5 femmes différentes, dont sa belle-fille de 13 ans, entre 2003 et 2010. La canicule recule, plus que 7 départements en vigilance orange ce soir dans le sud-est de la France, de l'Ain à la Haute-Savoie, en passant par l'Isère. Les températures devraient rester élevées, au moins jusqu'à dimanche.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info mardi, donc il y aura la constitution des groupes à l'Assemblée nationale. Normalement, il devrait y en avoir 7, hein, peut-être 8, on ne sait pas encore. Mais qui sera l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron? Peut-être pas seulement à l'Assemblée, Natacha Polony, on a parlé de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, les Républicains ou la rue. Est-ce que ça sera peut-être là la véritable opposition aujourd'hui à Édouard Philippe et Emmanuel Macron?
De toute façon, indéniablement, cette Assemblée nationale, même si le second tour de la des législatives a rééquilibré, souffre d'un déficit de représentation. Je veux dire, La République En Marche a fait 14,6% des inscrits au premier tour. C'est quand même dramatique d'avoir ce scrutin majoritaire qui amplifie à ce point-là le manque de représentativité. Du
Mais coup, alors, pour
en effet,
c'est quand même dans les règles, je veux dire,
dans
les...
la rue, voilà. Ça risque de se passer. Pourquoi? Parce que de toute façon, on observe dans le pays et dans toutes les couches et dans toutes les groupes sociaux, une radicalisation de plus en plus forte. Et on voit, on l'a vu avec les manifestations sur la loi travail, on a vu monter une colère qui parfois est absolument incontrôlable et qui devient profondément dangereuse. S'il y a l'impression que le peuple, une part du peuple n'est pas entendue, s'il y a l'impression que le gouvernement veut passer en force, ça risque de mal se passer et il va falloir vraiment être attentif à cela, pas seulement d'ailleurs sur la réforme du Code du travail, c'est une colère diffuse que personne ne contrôle.
Frère, pour vous, c'est ça? Ça va être les moyens d'expression? Parce que si on sait qu'on en trouve toujours finalement des moyens d'opposition, si ça ne se passe pas à l'Assemblée nationale, ça peut se passer ailleurs, justement, par des manifestations, par des présences médiatiques plus fortes. Voilà, ça va se créer différemment, d'après vous?
Moi, je partage cette analyse et je pense que la rue va beaucoup s'exprimer. D'autant plus, bon, sur l'Assemblée nationale, déjà avant même cette majorité, on sait très bien dans l'histoire de la Ve République qu'elle avait connu, cette Assemblée nationale, une certaine marginalisation même antérieurement. Et je pense qu'effectivement, ça va une expression dans la rue, parce que si on regarde bien, que ça soit la présidentielle ou législative, qui est majoritaire dans le pays, on va dire, la France du nombre 2005. C'est celle-ci qui est majoritaire. Et donc, et qui ne se retrouve pas dans des projets d'orientation libérale comme le gouvernement veut les porter.
C'est toujours ce clivage pour vous qui est là, qui est marquant. C'est celui-là, celui de 2005, le référendum, la Constitution européenne, c'est ça.
Mais pour moi, c'est fondamental. C'est la question européenne qui détermine tout le reste, parce que aujourd'hui, la loi travail, c'est l'enfant des directives européennes. Les choix économiques qui sont les nôtres sont déterminés par la question européenne, et que aujourd'hui, c'est la minorité, celle qui avait voté oui ou non, qui aujourd'hui, parce qu'il y a cette dispersion dans l'opposition, parce que cette France du non n'arrive pas encore à se traduire de manière organisée à l'Assemblée, par exemple, qui reprend le devant de la scène, qui porte des projets, et que le pays, je crois, ne veut pas. Et donc, la rue va être l'occasion de l'exprimer et de le dire clairement. Mais je le répète, pour moi, la question européenne, c'est la question centrale.
Virginie Petit, pourtant, alors en effet, la rue, on l'a vu, donc au moment de la loi El Khomri, il y avait beaucoup de manifestations, il y a eu des violences, mais les cortèges, finalement, n'étaient pas aussi immenses que dans des précédents conflits. On se souvient en 1995, par exemple, contre Alain Juppé, où là, il y avait carrément une France bloquée. Là, il n'y avait pas une France bloquée.
Non, il n'y a pas une unanimité. En revanche, il y a beaucoup plus, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup plus de violence dans l'expression, en fait, de la colère et dans l'expression du non ou de l'opposition. Et dans l'entre-deux-tours, il y a eu quand même des manifestations. Moi, je me souviens avoir vu des affiches, alors qui n'étaient pas des affiches officielles, « Il faut pendre le banquier ». Je pense qu'on est en train de partir sur quelque chose de réellement. C'est plus qu'inquiétant. C'est ce qui s'exprime en fait dans ces manifestations. Effectivement, c'est une colère profonde qui n'est pas aussi unanime que en 95. On est bien d'accord, mais qui est beaucoup beaucoup plus violente.
Peut-être parce qu'en 95, c'était davantage contrôlé par les syndicats en fait.
Peut-être.
Peut-être aujourd'hui un peu moins, Natacha Polony.
Et parce qu'en 95, c'était un petit peu la fin d'un monde, c'est-à-dire que ce mouvement-là, il était un mouvement de transition. C'était tout un monde qui ne voulait pas mourir, qui ne voulait pas se voir imposer un système économique. Aujourd'hui, il y a une forme de lassitude, parce qu'il y a beaucoup de Français qui, de toute façon, ont l'impression qu'on leur a imposé ce système économique, quoi qu'il arrive, et qu'ils ne pourront pas lutter. La question, en effet, c'est celle de la constitution d'une opposition. Qui va capter ce mouvement de colère sans l'emmener vers les extrêmes? Parce que ce qu'on a vu, c'est que les Français, finalement, ne voulaient pas être représentés, par exemple, par le Front National. Cette France du non dont vous parlez, elle n'a pas voulu aller là. Donc, elle est inaudible, donc elle est dans la frustration, alors qu'elle se sait au moins à 50%, peut-être majoritaire.
Alors, celui qui m'énerve, il y a quand même une chose qui est paradoxale, c'est que là, on parle en effet du Front National, de la France insoumise, qui représenterait la colère. Et pourtant, le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, ce sont les Républicains. Mais on a l'impression qu'ils sont inaudibles.
Ah ben, les Républicains,
c'est-à-dire qu'ils se cherchent tellement aujourd'hui,
non ? Ils sont dans, je sais pas, une quadruple, une quintuple crise. Imaginez, tout était prévu pour qu'ils remportent la présidentielle. Donc déjà, ils sont déjà dans ce choc-là. L'alternance, c'est fini. Pour eux, en tout cas. En tout cas, c'est pas pour eux, ou c'est pour une partie d'entre eux, mais pas vraiment. Donc déjà, c'est un choc. Et je pense qu'ils sont encore dans cette période de deuil. Quand on discute avec eux, c'est très net. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce que quelqu'un de droite? C'est quelqu'un qui veut un chef. Eh ben, il n'y a plus de chef. C'est encore reparti. Et d'ailleurs, ils sont en train de se dire quand est-ce que la campagne va commencer. Je sais pas, vous imaginez qu'il y a encore une nouvelle campagne qui va commencer pour la présidence des Républicains. Ouais. C'est-à-dire que là, on va avoir à nouveau des soirées électorales. Est-ce que c'est possible de faire ça tout de suite? Donc pour l'instant, il n'y a pas de chef. Donc ils sont perdus. Regardez François Baroin, très nettement, même s'il ne l'a pas dit, il va reprendre la présidence de l'Association des maires de France. Il va choisir sa mairie de Troyes. Et puis ce sera fini. Il sera plus en première ligne, donc on va assister à un match pour la présidence. Donc ça, et puis il y a une crise idéologique parce qu'ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé nettement depuis des années.
J'ai l'impression d'entendre des parents avant de ne pas remplir les cahiers scolaires. En fait, voilà, c'est ça.
Je suis désolée d'avoir fait la maîtresse d'école.
Non, mais je vous en prie. Non, mais juste une chose, soit dit aussi à propos de personnes aussi perdues. Ce week-end, il y a un Conseil national du Parti socialiste. On sent déjà que c'est très tendu. Non, mais c'est un peu tendu. D'ancien monde, nouveau monde. Là, on voit les deux parties qui sont aujourd'hui totalement perdues parce que il y a peut-être eu aussi un problème de réflexion sur leur logiciel même, c'est ça?
Mais bien sûr, mais depuis des années, de toute façon, les partis ne réfléchissent plus. Ils ont externalisé la réflexion à travers les laboratoires d'idées. Alors, ça pouvait être Terra Nova pour le Parti Socialiste, ça pouvait être la Fondapol ou d'autres fondations pour, enfin, d'autres cercles de réflexion pour les Républicains. Et donc, à l'intérieur des partis, ils ont abandonné aussi le choix du chef puisque c'est passé par les primaires. Donc il y a plus rien, il y a plus rien. Et puis en plus, Emmanuel Macron vient de casser leur moule, de casser leur modèle parce qu'avant on était militants, on était un petit peu élus, puis on devenait grand. Et ben là, il a tout cassé. Donc tout est à plat.
Tout est à plat. Très bien. Bon allez, dans un instant, on va parler d'une loi qui fait aujourd'hui polémique et dont on parle beaucoup parce que notamment Jacques Toubon, défenseur des droits, s'est exprimé dessus. C'est sur l'état d'urgence et la prochaine loi anti-terroriste. L'info 1h50, Julie Smul.
C'est le sursis que les salariés de GMES n'attendaient plus. Le tribunal de commerce de Poitiers leur laisse encore une semaine de répit avant peut-être de prononcer la liquidation judiciaire. L'équipementier automobile de la Creuse attend toujours une offre ferme de reprise. 277 emplois sont menacés. La France et l'Allemagne, main dans la main, plus soudées que jamais pour résoudre la crise migratoire. Elle n'est pas passagère, c'est un défi à long terme, déclare Emmanuel Macron aux côtés d'Angela Merkel juste après le Conseil européen. Paris et Berlin s'engagent ensemble pour accélérer les procédures pour traiter les demandes d'asile. Les images de cette tour calcinée à Londres ont fait le tour du monde la semaine dernière. Les enquêteurs ont découvert d'où est parti l'énorme incendie de la Grenfell Tower, d'un réfrigérateur dans un appartement. Autre révélation dans le rapport de la police, les revêtements à l'intérieur de la tour n'étaient pas conformes aux normes de sécurité. Au moins 79 personnes sont mortes dans cet incendie. Le publicitaire J.C. Decaux porte plainte après cet affichage sauvage sur plusieurs abribus parisiens, des affiches anti-avortement avec le logo du mouvement Les Survivants. C'est un groupe anti-IVG proche de la Manif pour tous. J.C. Decaux et la mairie de Paris dénoncent ce soir un acte de vandalisme. Et puis la toute première fusée Ariane 6, elle sera lancée dans 3 ans, le 16 juillet 2020 exactement. C'est le PDG d'Ariane Espace qui l'annonce ce soir sur France Info, un lancement qui aura lieu depuis le centre spatial guyanais à Kourou.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste quelques minutes pour évoquer un sujet qui viendra sur la table juste après la loi sur la moralisation de la vie politique, puisque vous savez, dans le manuel du parfait président de la République intitulé « Bien régner en cinq leçons », il y a ce commandement « Attention aux nominations de postes honorifiques, risque d'opposition » qui se retrouve aujourd'hui en la personne de Jacques Toubon. Lui, il est nommé en 2014. Toubon prend très à cœur son travail de défenseur des droits et n'hésite pas aujourd'hui à désinguer le projet de loi antiterroriste en le décrivant comme une pilule empoisonnée et s'inquiète du risque, je cite, de dissolution de la cohésion nationale. Si les prérogatives de l'état d'urgence sont fondues dans le droit commun, Natacha Polony, les députés vont devoir se pencher sur cette nouvelle loi antiterroriste. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des discussions justement assez sévères ou quand on parle de loi antiterroriste, ça fait généralement l'unanimité comme on a pu le voir auparavant?
Il y aura des discussions assez sévères parce qu'il y a tout de même parmi ces quelques groupes d'opposition des gens qui contestent la mise de l'état d'urgence dans le droit commun. Pourquoi ? Mais souvenez-vous en 2016, le 14 juillet lors de son interview de midi, François Hollande explique qu'il lève l'état d'urgence parce que ont été mis dans la loi les dispositifs qui permettent à la police et aux renseignements d'agir et donc l'état d'urgence est devenu inutile de fait. Arrive le soir l'attentat de Nice à 23h30. François Hollande annonce qu'il rétablit l'état d'urgence. Donc il y a un moment où il faudrait savoir. L'état d'urgence a été très utile, juste dans ce qui a suivi le Bataclan. Parce qu'il a permis des enquêtes, parce qu'il a permis des perquisitions rapides. Simplement, maintenant, un état d'urgence maintenu de façon artificielle, parce qu'on n'ose pas le retirer, parce qu'on a peur de on a peur que s'il y a un attentat, de se faire accuser. Et ensuite, l'utilisation qui peut en être faite pour d'autres manifestants, pour d'autres opposants que pour des terroristes djihadistes, risque de poser problème. Et c'est ça qu'il va falloir regarder.
Virginie Petit, vous en parliez tout à l'heure là de justement cette presse étrangère qui est très regardante sur Emmanuel Macron, qui a quelques doutes. Justement, le New York Times s'est inquiété de ça, sur l'état d'urgence.
Oui, s'est inquiété de ça, parce qu'il le dit très clairement, c'est une façon de réduire de façon permanente les droits des citoyens français et d'autoriser effectivement de façon permanente la police à effectuer un travail directement sans passer par le judiciaire, sans passer c'est par ça. Voilà. Et donc oui, ça les inquiète énormément et alors que c'est quand même un pays qui a connu des lois assez liberticide, elle
après
aussi,
le 11 septembre.
Après le 11 septembre. Mais je pense que justement, c'est pour ça que la presse américaine regarde attentivement ce qui se passe en France, parce qu'ils savent très bien ce qui pourrait se produire. Et que ce qui se prépare avec l'inscription, puisque on parle de ça, de l'état d'urgence dans la loi de façon pérenne, ça va bien plus loin que ce qui s'était passé après le 11 septembre aux États-Unis.
Il y a une chose qui est assez étonnante, Frédéric Farah, c'est Jacques Toubon qui dit, dans cette interview du Monde, le projet de loi crée une étonnante neuve langue de l'antiterrorisme. On ne parle plus d'assignation à résidence, mais de mesures individuelles de surveillance. Plus de perquisitions administratives, mais de visites et saisies. Pour vous, voilà, même là, dessus, on fait un petit peu aussi du remaquillage de ce qui était l'état d'urgence pour le mettre dans le droit commun.
Oui, parce que je pense que la nouvelle langue se porte dans tous les domaines. C'est un plan social, c'est un licenciement, donc c'est ça qui est sympa, vous voyez. Donc il y a toujours, que ça soit même dans ce domaine-là, pour rendre la chose moins inquiétante, on va toujours l'atténuer. C'est l'art d'un euphémisme, de cette langue nouvelle langue ou cette langue de caoutchouc qui ne veut rien dire. Alors qu'il s'agit effectivement, comme on vient de le dire, des libertés publiques et qui en plus, cet arsenal, s'il s'inscrit dans le droit commun, pourrait servir à autre chose. On parlait il y a quelques instants de risque de manifestation, de risque peut-être de tension sociale. Il ne faudrait pas que effectivement ça serve à un autre usage que prévu.
Rapidement, Natacha Polony, parce que je voudrais qu'on entende après celui qui m'énerve.
Bien sûr, très rapidement, je pense que le véritable problème pour ce qui pourrait améliorer la lutte contre le terrorisme ne se situe pas là. Ça se peut situer notamment dans tout l'appareil judiciaire et on se rappelle qu'il y a eu des erreurs majeures faites sur des djihadistes qui ont été relâchés par des juges des libertés qui n'avaient pas mesuré le risque. C'est là-dessus qu'il faudrait travailler et pas sur la restriction des libertés.
Alors, ce qui est maintenant, on le voit depuis le début de la campagne, Emmanuel Macron était accusé de ne pas s'engager sur le sujet régalien. Depuis qu'il est élu, on l'a vu remonter les Champs-Élysées en Jeep, notamment faire une task force autour de lui. Il y a quand même eu déjà 7 lois qui ont été votées sur l'antiterrorisme. Là, il a réagi dans l'émotion, d'après vous, après Londres, on se souvient. C'était Manchester.
Oui, il a fait ce qu'il avait laissé entendre qu'il ne ferait jamais. jamais. C'est-à-dire qu'il a fait du Sarkozy. Il y a Manchester, on fait cette loi. Vous l'avez rappelé, il y avait une loi juste l'année précédente qui devait déjà faire rentrer une bonne partie des dispositions de l'état d'urgence dans la loi. Donc, quel besoin de cette nouvelle loi? Et maintenant, on va être dans une surenchère à l'Assemblée. On voit déjà que les députés, les Républicains, attention, ligne dure, donc pas les constructifs, les autres commencent à dire « Ah, mais ça suffit pas, faut aller plus loin. » Donc, on va partir dans c'est pas de ça dont on avait besoin. Effectivement, ça va être très difficile. En plus, malgré cette loi, de réussir à dire c'est fini l'état d'urgence, c'est devenu une espèce de doudou, c'est bien très sûr. Difficile de s'en débarrasser. Notamment, vous avez rappelé ce qui s'est passé le 14 juillet dernier, et c'est un risque politique malgré tout immense de sortir de, même si c'est rien, même si c'est, toutes les dispositions sont dans la loi, de sortir de l'état d'urgence.
Et oui, j'imagine qu'on continuera à en parler, notamment lorsque cette loi sera présentée à l'Assemblée. Les Informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup à Natacha Polony d'être passée ce soir.
Merci
Frédéric Farah. Un petit coup d'œil à nos partenaires, la une de Courrier International, Virginie Petit.
Nous en parlions, c'est Macron tout puissant et la presse étrangère qui regarde, inquiète et fascinée, les concentrations des pouvoirs du nouveau président.
Voilà, avec une une qui est une référence donc à Bruce tout puissant, bien sûr, avec Jim Carrey. La une de Marianne,
Sophie Kimener. Alors nous, si on fait une référence, on dit, on les disait incorruptibles, ils sont les incorrigibles, et je vous laisse deviner qui est en une.
Alors, qui ça peut être, je ne sais pas.